Croyez-moi, vous en êtes un.
J'en suis un ?
Oh oui, et un beau.
Mais vous êtes fou !
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Si vous êtes normal, vous n'avez rien à foutre ici. C'est évident.
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.
T'es fou ? C'est pas bien normal. Il n'est pas comme nous.
Les anormaux, quoi, les anormaux. Les entonnoirs.
Si je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne.
Normal. J'ai un coup de gueule à passer.
Mais fait quoi, on fait notre émission de radio,
ouais,
on discute quoi.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Non mais c'était un coup là.
Il faudrait construire des asiles de cons et vous imaginez un peu la taille des bâtiments.
En se posant des questions.
Avec tout ça direct.
Bonjour les entonnoirs.
Bonjour.
Bonjour les entonnoirs.
Bonjour.
Il y a du monde. Il y a du monde aujourd'hui. Il y a du monde avec Malika. Bonjour Malika.
Bonjour auditeurs, auditrices.
Le grand retour de Thierry.
Oui, le poète qui n'est jamais en errance. Il a toujours un vide à combler.
Oussine.
Bonjour.
Un autre retour avec celui de Florent.
Ah, j'ai oublié. Bonne année en fait.
Bonne année Florent.
Bonne année.
Aline qui est avec nous.
Oui, bonjour tout le monde.
Le troisième retour, celui de Margot.
Et oui, bonjour, meilleurs voeux à tous.
Serge.
Bonjour à tous.
Nicolas.
Bah, bonjour.
Olivier.
Pas plus.
Nous sommes le 29, là c'est bientôt trop tard, hein, tous ceux que je n'ai pas vus, pour leur souhaiter une grande année d'amour, hein, et de heureuses années et de bonne santé à la longue durée. Pas un rhume, pas une rhinite, rien.
Merci Olivier. Et puis à ma droite, Christopher.
Salut tout le monde.
Clarisse.
Salut.
Et Rachid.
Salut.
Vous l'avez remarqué, nous sommes nombreux aujourd'hui.
Ah, oui.
On est 13 autour de la table. On va essayer de faire une émission ordonnée, organisée, sérieuse et divertissante. Parce qu'au programme, il y aura évidemment l'actu service. Ensuite, une discussion sur les agriculteurs en France. Et puis voilà. Un petit jeu en fin d'émission avec Florent, la météo de Malika. Et côté musique, on écoutera Dire Straits, Kokomo, The Police. Et on commence, comme d'habitude, avec Serge.
Oui, ben, bonjour. On va commencer du blues. Alors, on va parler de Little Bobby. Ses premières influences font le style blues de Jimmy Pogue et Jimi Hendrix. Et il a formé un groupe qui s'appelle Storm. Et le titre, c'est Sting String Telephone.
Six Strings Telephone. Et je pense que tu voulais parler de Jimmy Page, hein, pas Jimmy Pogue.
Ouais, c'est un des membres du groupe Led Zeppelin.
On écoute Little Bobby.
We'll be right back.
Entonnoir émission 777, ça continue avec l'actu service, la revue de presse des entonnoirs. Jingle. 770, j'ai dit quoi ?
777.
Ah ouais, ok. C'est parce que je regarde le docu sur les Boeing 777 qui se sont crashés récemment. Voilà, quoi. Pardon. C'est la série d'hier soir que j'ai regardée qui est rentrée dans mon cerveau et qui n'est pas sortie. 770, bien entendu.
Mesdames et messieurs, bonjour, mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonjour.
Ok, qui veut commencer ? On a Aline et Olivier, on va être galants, on laisse Aline commencer. Allez, avec une actu culturelle.
Les filles d'abord.
Tout à fait, une actu culturelle avec Mons, donc, qui se trouve à la frontière lilloise. Donc, j'ai parlé il y a quelques semaines de Roubaix qui s'était illuminé avec l'hôtel de ville, l'église et la piscine, le musée de la piscine.
Alors, tu parles de Mons-en-Barœul ?
Non, je parle de Mons en Belgique.
Ah ouais, okay. Ouais, ok.
Mons en Belgique, donc, qui se trouve à 80 km de Lille et à 40 km de Valenciennes. Donc c'est une ville qui fait un festival des arts lumineux, c'est une première en Wallonie. Il y a 26 œuvres d'artistes internationaux, d'habitants et d'étudiants en arts numériques qui investissent le centre historique de Mons. C'est une initiative destinée à faire vivre la ville en période creuse. Les nuits d'hiver ont une nouvelle saveur, donc ils font ça l'hiver essentiellement pour redonner un petit coup de pouce au centre-ville historique de Mons. Donc c'est une ville vivante qui a su préserver son patrimoine avec une gare futuriste qui est d'une nouvelle ère dans la cité wallonne. Il y a la place Léopold qui vient d'être rénovée et qui est le point de départ de ce festival des Lumières. La cité du Doudou se lance donc dans les arts lumineux, si tendance désormais dans les villes qui veulent compter. Donc ils prennent exemple sur Lyon et sa fameuse fête des Lumières où ils sont allés en 2022 pour préparer
l'équivalent belge
de la fête des Lumières de Lyon. C'est sur un parcours de 3 km dans le centre historique de Mons. Cette année, la première édition fête le centenaire du surréalisme. Donc on peut voir sur plusieurs bâtiments de centre historique des projections numériques, donc qui sont des tableaux éphémères en fait. Il y a aussi un poète, Robert Montgomery, qui est le parrain de cette édition, qui aura les vers de certains de ses poèmes qui seront retranscrits en lumière aussi sur les façades des maisons. Donc on pourra voir lire certains textes de ce poète. Et les infos pratiques que je vais vous donner. Donc Mons, c'est ce que je disais, se situe à 80 km de Lille et à 40 km de Valenciennes. Il y a plusieurs parkings qui seront disponibles et gratuits sur le site, qui se situent à moins de 10 minutes à pied du point de départ du parcours Mons en Lumière. Là, il y a eu une édition qui a eu lieu dimanche, enfin ce week-end, puis du 1er au 4 février de 18h30 à minuit. Deux œuvres resteront après cette date. La couronne de Rosa Parks sur le bâtiment U Mons, et Invisible Graffiti of Love de Robert Montgomery, justement, sur la place Léopold. Donc ça, c'est des œuvres qui resteront...
Des œuvres permanentes.
Permanentes, okay. Oui, tout à fait. Donc, combien ? Le parcours est gratuit, mais vous pouvez suivre une visite guidée de 10 euros, plus d'infos sur le site visitemons.be, et aussi le Licht Festival de Gand, qui est le festival de la lumière de Gand, qui se tient du 31 janvier au 4 février. Donc c'est un festival des lumières qui est sur Gand, en Belgique également. Donc voilà, si vous voulez aller visiter tout ça, ça peut faire du bien. Un peu de lumière dans les nuits d'hiver.
Merci Aline. Allez Olivier, c'est ton tour.
Voilà, donc ce lundi, cette semaine, mon coup de cœur va sur Sylvie Bouillon, 57 ans, dont 36 ans d'enseignement. Ça s'est passé à Canfin, en Pével, victime d'un arrêt cardiaque en classe. Un élève de 9 ans a été sauvé donc par l'enseignante, l'institutrice, Madame Sylvie Bouillon. Cette formidable enseignante, donc, elle a, avec l'aide des urgentistes, elle les a par le téléphone portable. Elle a mis le haut-parleur et elle a fait exactement ce qu'il était à faire. Et elle y est arrivée avec brio. Chapeau pour elle. C'est vraiment de l'amour. Maintenant, ces jeunes gamins, gamines vont aller à l'école en confiance et très très heureux. Voilà, c'était formidable. Voilà.
Info suivante.
Toujours positif pour l'instant. Des donneurs de sang félicités pour leur assiduité à l'U1. Donc, ils ont fait mieux que les années d'avant. Il y a plus de gens qui ont donné leur sang. Formidable aussi. Le visage Mar Galzeran, dans l'hémicycle en Espagne. Cette dame de 46 ans se bat pour changer le regard de la société sur le handicap. C'est pas parce qu'elle est trisomique qu'elle se sent diminuée. Elle n'aime pas qu'on dise ça. Et elle est à l'aise. Et elle a des compétences exceptionnelles. Par contre, je parlais de ce petit Maxime qui avait été sauvé. Il y a une vive émotion à Neuville-en-Ferrin, après le décès de César, atteint d'une maladie génétique, à myotrophie spinale. Il aimait bien croquer la vie. Il était licencié dans le club de football Fauteuil de Villeneuve-d'Ascq. Il avait été voir un championnat du monde en Floride de foot.
Fauteuil,
ouais. Voilà, mais il s'est battu comme ça, il avait un moral et la maladie, elle a eu raison de lui. C'est un peu...
Triste.
Voilà. Maintenant, c'est pour dire tout le bien que je pense du centre hospitalier de Roubaix, qui a donné une porte ouverte ce week-end. Et donc, pour susciter vocation, peut-être on peut penser que Roubaix est ville pauvre, mais on est riche d'un grand hôpital. Voilà. Moi, j'ai rien à dire de Victor Provost. Je sors un peu de mes gonds par rapport au niveau de la psychiatrie en France. On dit que les médecins psychiatres ont plus de 65 ans, que personne
ne veut suivre les internes en médecine, ne veulent pas aller en psychiatrie. C'est le parent pauvre. On dit que les psychiatres assomment les gens de médicaments, que les psychiatres sont aussi fous que les patients, alors que c'est n'importe quoi. C'est aller mettre des étiquettes sur des gens formidables qui donnent tout leur possible. Hein. Le jour où vous en aurez besoin, vous vous souviendrez de ce que j'essaye de dire, alors, que c'est des gens qui sauvent la vie. Des fois, il y a des rechutes et des fois, ils sauvent la vie plusieurs fois. Et c'est pas facile d'aller voir dans un cerveau ce qui se passe. Si vous ne savez pas ce que c'est que la maladie psychique, je vous souhaite pas de le savoir. Je vous souhaite pas de le vivre. Mais il faudra pas revenir. Et stigmatiser la psychiatrie comme ça, moi je veux que Bonafé soit comme Victor Provo, respecté. Et voilà.
Merci Olivier. Et maintenant c'est au tour de Margot.
Oui, moi c'était plutôt une révolte. En fait, voilà. Actuellement, les laboratoires qui fabriquent les piqûres Trull City, que moi je prends actuellement pour mon diabète, sont en rupture de stock, mais déjà depuis un sacré moment. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent ça pour maigrir. Mais moi, je suis suivie par une diabétologue. Et donc, moi, j'ai ça depuis des années. C'est pour permettre de régulariser mon diabète. Et donc, voilà, le laboratoire a décidé, pour l'instant, de couper net ça. Moi, ça fait déjà un mois que j'en ai pas. Donc, que pensez-vous de ça, vous ? Parce que moi...
Ouais, ben, faut pas oublier que le laboratoire, c'est en Suède. Alors... La Suède, c'est une usine, elle a autant de trucs, elle a beaucoup de demandes dans le monde. Mais ce médicament, c'est que pour maigrir, et le diabète, et deux trucs pas que pour maigrir. Il faut avoir le diabète et pour maigrir.
Rachid.
Ouais, moi, j'ai ma maman qui est diabétique et qui a le même traitement que toi, Margot. Oui. Et en effet, ça devient compliqué d'avoir une injection qu'elle a par semaine. Hein,
une fois par semaine.
Par rapport au diabète. Et ça devient compliqué d'en trouver. On fait plusieurs pharmacies pour pouvoir l'obtenir.
Oui.
C'est même stressant parce que tu as peur de ne pas avoir ton traitement. Hein,
oui.
Le diabète, c'est une maladie. Et c'est un médicament qui a eu un grand succès, surtout aux États-Unis. Et comme Serge l'a dit, c'est un laboratoire en Suède. Et donc... il y a plein de médecins qui prescrivent pour faire perdre du poids à des gens en situation d'obésité ou pas. Hein. Des fois, ça peut être des TikTokers des influenceurs qui conseillent de prendre ce médicament. Et à côté de ça, ben, y a des gens qui sont malades et qui n'arrivent plus à avoir leur traitement.
Voilà.
Donc, c'est un coup de gueule surtout contre les médecins qui prescrivent ce médicament alors qu'il n'y en a pas pour ceux qui sont malades.
Voilà. Donc c'est pour ça que ma diabétologue va essayer de trouver un autre procédé.
Thierry.
Moi, voilà Thierry, ma généalogie est plutôt du côté du diabète. Parce que mon grand-père, ailleurs avant mon arrière-grand-père et mon père ont le diabète. Donc c'est couru de père en fille, de père en fils. Et en tout cas, pour le diabète, pour les hôpitaux, tout ça, ceux qui ne trouvent pas assez de produits pour pouvoir guérir... définitivement cette maladie, c'est effectivement, je connais pas cette maladie, hein, mais bon, pour ceux qui l'ont, c'est des mesures drastiques, et c'est vrai que dans un bon hôpital, bien traité, malgré le fait qu'il manque de médicaments, tout ça, moi je pense que la seule chose à faire, c'est d'espérer.
C'est quoi ?
Espérer.
Garder l'espoir.
Ben, moi, ça fait depuis 2010 que je suis diabétique. Moi, si j'ai pas mon traitement diabétique, mon taux, il monte et puis je meurs. Hein. Je le dis tout de suite. Hein. Voilà.
Ok, merci à tous. On continue avec Florent.
Oui, avec plaisir. Déjà, je vais faire un petit aparté. Ça me touche beaucoup de venir parmi vous.
Merci.
Et ça fait vraiment plaisir quoi, de revenir. Voilà, ça c'est fait. Alors, je parlais dans la scène des Quatelons, dans le nord de la France. En fait, la marque envisage de créer d'ici à 2025 une paire de baskets recyclables à 100%. Alors, avant de commencer, de passer au sujet, sachez que c'est une revue de presse d'un article d'un Nord-Éclair, il était du 25 janvier dernier.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas cité tous les articles. Voilà. Mais Olivier, toi aussi, c'était Nord-Éclair, hein, je crois, c'est ça ?
Nord-Éclair.
Ok, alors, allez, continue.
Là où c'est créé, fabriqué et façonné, ça se passe à Boitrelot, en fait, bien de chez nous. L'entreprise nordiste va baptiser les chaussures qui ont pour nom Reborn VO. Alors, France Info a colporté des informations liées à ça le 17 janvier dernier, hein, donc c'est très frais. Donc quoi, les gens utilisent les chaussures pour les rapporter ensuite au magasin, sachant que si les chaussures deviennent fouilles, c'était un peu abîmé, peut-être que... voilà.
Bah, c'est des prototypes, hein, donc c'est fait pour, ouais. Fait pour être usé. Hein,
savoir si ça vaut le coup ou pas de les commercialiser.
Ouais, voilà, c'est ça.
Decathlon a l'habitude de faire tester ses modèles avant de les commercialiser. Quand même, c'est une riche idée, j'ai envie de dire. Sachant qu'au final, 30 hommes chaussant du 43 vont être choisis pour les tester. Alors, le test n'est pas rémunéré, ça sera un peu facile sinon. D'après France Info, la paire doit sortir dans le commerce en 2025 pour un montant de 120 €. Ça va avoir le coup, je pense. Voilà.
Moi, je pense que c'est surtout un bon moyen de faire de la pub avant de commercialiser le produit. Ils font parler de leur produit, les gens en entendent parler, comme ça, le jour où ça sort, les personnes intéressées savent déjà ce que c'est. Margot ?
Oui, justement, je peux en parler à connaissance de cause, parce que mon fils, elle va faire partie de ce programme.
Ah ouais ?
Oui, okay. Parce qu'il fait du 43.
Ok.
Et l'histoire de la rémunération, ils sont payés.
Ah ok.
Voilà. Donc, lui, c'est Ronk, au fait. Decathlon Ronk.
D'accord.
Au fait, c'est des genres de cobayes, mon fils m'a expliqué. Ils sont cobayes,
okay.
Mais ils sont rémunérés. Et c'est vrai qu'il faut faire du 43.
Ok.
Voilà.
Donc, il fait partie des 30.
Oui.
D'accord.
Oui.
C'est un heureux élu.
Oui, parce qu'il a déjà fait partie de...
De panel comme ça.
Comme ça, avec le Decathlon. Oui.
D'accord.
Mais c'est bien rémunéré.
Alors, c'est subsidiaire, c'est-à-dire, mais pour Puma, je crois que c'est le compost. Les baskets Puma, il me semble. Hein. Mais ça parle de compost.
Ils ont fait des baskets recyclables aussi, Puma, c'est ça?
Puma, de compost. Ouais.
On met les baskets au compost. C'est une blague? Non.
Non, mais ce dont je me souviens, c'est qu'en fait, là, c'est écrit en fin d'article.
Ah, ok. Bon, ouais. Je sens que Christopher est déjà en train de chercher si cette info est vraie ou pas. En attendant, on va donner la parole à Houssine.
Oui, bonjour. Alors, moi, je veux parler de l'apprentissage et de l'artisanat. Alors, c'est la preuve par la passion. Alors, l'apprentissage est la voie royale vers l'insertion professionnelle. Encore plus dans l'artisanat, dont les centres de formation ont ouvert leurs portes ce samedi dernier, c'est-à-dire le 27. Mmh. Mmh. Alors, deux ou trois exemples. Le premier, Cyril, qui dit qu'il a trouvé sa voie après avoir aimé le travail manuel à domicile et avoir fait plusieurs stages dans la boulangerie Dupont à Maubeuge. Ensuite, Camille, qui prépare le concours du salon de l'agriculture, qui est bouchère, un métier aussi pour les femmes. Et enfin, Justine, qui, elle, a toujours été amoureuse du chocolat. Elle fait son apprentissage chez le meilleur chocolatier du monde, chez Quentin Belli, à Péranchy.
Ok. Un article issu de quel journal ?
La Voix du Nord.
La Voix du Nord, ok.
Du 28.
Merci, Houssine. Christopher.
Alors, j'ai juste une petite info par rapport au basket Puma. Mmh. Donc, en fait, en 2021, en effet, ils ont créé 500 paires de Puma Suède, leur basket classique expérimental, en utilisant du dintané, une semelle extérieure en TPE et des fibres de chanvre. Ça a été porté en Allemagne pendant 6 mois par des volontaires. Et après, en fait, ils les ont envoyés dans un système de compostage industriel aux Pays-Bas. Okay. Alors, il y a tout un traitement spécifique, mais elles ont réussi à être compostées. mais c'est avec tout un traitement où elles ont été déchiquetées, mélangées à d'autres déchets et tout ça, quoi.
Ok, ok, ok. Mais c'est bien, comme quoi il y a un espoir. C'est vrai qu'on pense pas aux baskets qu'on jette à la poubelle, est-ce que ça pollue ou pas, évidemment. La réponse est oui. Est-ce qu'on a fait le tour de l'actu service? Bah, Christopher, non,
alors,
tiens, vas-y.
Alors, j'ai une info qui vient de Midi Libre. En fait, il y a une dame qui a voulu faire des économies. D'après vous, qu'est-ce qu'elle a fait pour faire des économies? Au décès de sa mère.
Au décès de sa mère, elle a pas enterré sa mère.
Ouais. Eh ben, en fait, alors, c'est pas vraiment ça. En fait, cette dame est parisienne et sa mère est décédée dans l'heure, dans une résidence. Et en fait, elle a fait le transport avec sa mère décédée dans la voiture au siège passager. Ah, pour faire une économie de transport, parce que sinon, c'est par les pompes funèbres. Donc, elle a voulu économiser à peu près 500 euros en faisant ça. Et elle a déclaré le décès de sa mère qu'une fois qu'elle est arrivée à destination.
Oh la vache.
Alors que, je rappelle, c'est interdit. Oui. Bah, en fait, c'est interdit. On doit déclarer le décès là où la personne est décédée et pas là où on voudrait qu'elle soit, en fait. Donc, voilà, quoi. Oui.
Ok. Mais t'as un micro, Thierry, si tu veux parler.
Excellent renseignement, Christopher. Merci. Je pensais pas à propos à l'étage ou à de l'argent. Vous pouvez faire des cachotteries ou là, vous pouvez voler quelqu'un.
Aline.
Oui, comme elle n'a pas eu de traitement des pompes funèbres, il devait y avoir certaines odeurs indélicates.
La mère a dit qu'elle avait bien nettoyé après. La
parce
dame.
Parce que si on n'a pas de traitement interne des pompes
c'est illégal,
funèbres...
C'est du transport de cadavres, c'est illégal.
Rachid. Je pense qu'au niveau légal aussi, ça pose des problèmes au niveau de ben, on ne sait pas de quoi elle est décédée. Est-ce qu'elle avait une maladie? Voilà, le médecin, quand il passe pour constater le décès, il doit mettre si une maladie contagieuse ou pas. Tandis que là, elle l'a transportée sans savoir...
On dirait l'île de Docteur Moreau.
Et même avec une clim froide, c'est pas terrible, terrible quoi, au niveau conservation.
Tu m'étonnes. Ok, bon, on a fait le tour des actus. On va passer à la musique de Thierry, qui voulait écouter The Police.
Rock, sand. You don't have to put on the red light.
Les entonnoirs émission 770. On va donner la parole à Serge.
Ouais, ben, c'est vrai que ces temps-ci, l'agriculture va mal. Alors, il y a plusieurs problèmes. On peut parler du salaire et des cadences. Après, on peut parler de taxes à l'essence et le libre-échange des produits. Les salaires à un viticulteur gagnent en principe 2 700 €. Après, les bovins, ovins, c'est 1 500 €. Et le plus bas, c'est les chèvres, 700 € par mois. Alors, vis-à-vis des viticulteurs, ceux qui font la vigne, ils bossent que 5 mois sur l'année. Et le taillage des serments, et après 1 mois pour les vendanges, 1 mois et demi. Et après, c'est un peu de labourage de terrain. Par contre, les bovins et les chèvres, il faut les traire tous les jours. Il n'y a pas de samedi, dimanche. Et si je prends des congés, ben, il faut te débrouiller. Ben, plus ou moins, les fermiers doivent faire entre familles. Ils doivent avoir la femme, les enfants, tout le monde s'y met la main à la pâte. Alors après, il y a eu un très grave problème. Ils ont voulu toucher à l'essence. Parce que l'essence pour les tracteurs, elle est à 1 € du litre. Et je crois qu'ils ont voulu toucher à ça. Et après, ils parlent du libre échange des produits. C'est vrai qu'il y a 10-15 ans en arrière, moi j'ai acheté un gigot d'agneau d'Australie, qui en a des millions. Et 1,5 kg, il valait 18 kilos de gigot. Tandis qu'à France, en France, 1,5 kg de gigot, c'est 40 euros. C'est pas le même prix. Et après, faire des échanges. Il faut faire des échanges équivalents. Je veux dire, si jamais l'Australie vend des gigots d'agneau australiens, nous, on ne peut pas changer nos gigots français parce qu'ils sont trop chers. Et après, il faut faire l'équivalent à un prix d'un gigot d'agneau. Ouais, ben, c'est tout. Je ne sais pas comment ça va se terminer, là, mais... Bon, on finit sans mal barré. Hein.
Alors, on a des réactions de partout. On va commencer par Aline, le temps que Margot prenne le micro. Vas-y.
Oui, donc c'est par rapport au GNR, au gasoil non routier. Ils voulaient leur rajouter 6 centimes par an. Donc là, ils le touchaient à 1 €, donc ça faisait 1,06 € et ainsi de suite. Et il y avait un agriculteur, quelqu'un du BTP, parce que le BTP pense rallier le mouvement des agriculteurs, parce qu'ils sont impactés par le GNR aussi, vu qu'ils en utilisent aussi pour leurs engins de chantier. Pardon. Et il expliquait que donc c'est jusque 2030, ils veulent faire une hausse de 6 centimes à chaque fois. Ça lui reviendrait à la fin à 1 million de déficit. Si cette hausse a lieu bien tous les ans et que c'est bien régulé comme c'est prévu. Donc c'est pour ça qu'ils veulent rallier le mouvement des agriculteurs, quoi, parce qu'ils sont aussi fortement impactés par ce gasoil non routier qui est de couleur rouge, c'est comme ça qu'on le reconnaît.
Margot.
Oui, donc moi aussi, comme je disais aussi, niveau des prix déjà. Quand ça vient d'Espagne, vous payez beaucoup moins cher. Et c'est vrai que la France, les prix sont bien taxés, quoi, au fait. Hein. Et donc, moi, je leur donne raison, au fait. Hein, mais donc, nous, les petits pauvres, hein, on est obligés d'acheter selon notre porte-monnaie. On n'a pas le choix, au fait. Donc, ils disent qu'on doit acheter... ouais, d'accord, je suis bien d'accord. Mais ça, c'est pour des gens qui ont les moyens.
Ouais, entre une clémentine d'Espagne et une clémentine de Corse, c'est pas le même prix, on est d'accord.
Non, ben, voilà, c'est ça qu'il faut dire aussi. C'est pas la même chose non plus. Et donc... mais c'est vrai qu'ils gagnent même pas l'équivalent d'un RSA. Ils ont beaucoup moins qu'un RSA.
Tu peux pas faire une généralité. Certains sont concernés en effet par, oui, par voilà, des salaires très,
et
très,
donc,
très bas.
Mais moi je dis franchement, je regarde mon porte-monnaie, quoi, c'est tout. Hein.
Mais il y a aussi des gros exploitants agricoles, t'inquiète, hein, ils exportent en Chine, ils sont bien contents, ils ont des dizaines, voire des centaines d'hectares de céréales qu'ils exportent, et eux ils vont très bien.
Bah oui.
Il y avait d'autres réactions, je crois. Florent et Houssine.
Bah, C'est vrai que l'agroalimentaire est indispensable en France. Maintenant, le truc, c'est que je suis assez partagé parce que je comprends leur désespoir, mais en même temps, bloquer les routes pour bloquer les routes, je veux dire, c'est pas, ça va pas amener à rien, à moins que les parties s'accordent et qu'on trouve un. Voilà. Et on serre des mains. Et en même temps, je pense que. Je sais d'où ça vient. Bah, souvenez-vous, je crois que c'est le petit Naël là, qui a refusé d'obtempérer face à la police. Et celui qui est le petit gamin de 14 ans là, qui roule en voiture, qui s'est fait tirer dessus. En fait, moi, je vais faire un parallèle. Ça vient de. Souvenez-vous, l'agricultrice et sa fille de 14 ans qui ont été renversées et qui ont été tuées sur la route. Et c'est pour ça que les agriculteurs, à mon sens, les agriculteurs se manifestent. Peut dire que...
Non, pas du tout. D'ailleurs, le mouvement des agriculteurs, il est vraiment arrivé avant que ce drame arrive avec l'agricultrice et tout ça.
Alors, c'est ce que je voulais savoir, si le problème des agriculteurs qui avaient bloqué la A25 et qui comptent monter sur Paris, c'était pourquoi, et elle a répondu, Aline.
Ok. Aline, justement.
Oui, il y a eu un drame quand même, c'est pas ce week-end, c'est le week-end dernier ou c'est dans la semaine, il y a eu une dame et sa fille de 14 ans qui ont été tuées, il y a une voiture avec trois ou quatre Libanais dedans qui étaient en plus en mesure de sortie de territoire. Ouais. Qui sont rentrés, qui ont forcé un barrage routier, qui sont rentrés dans des ballots de paille et qui ont tué une mère de famille et sa fille de 14 ans. Et il y a la petite qui est en réanimation à l'hôpital, quoi. Donc, la petite est décédée aussi. Ah, donc, il y a eu deux filles de décédées et la mère qui sont décédées. Quoi.
C'est quoi l'histoire? Ils ont cru que c'était un barrage de police, donc ils ont foncé, c'est ça en fait, non?
Ils ont essayé d'éviter le barrage de police et ils sont rentrés dans des barrages.
Ouais, ouais. Parce voilà, qu'ils étaient justement en situation régulière. Et ouais. Okay. Serge.
Ouais, ben moi, ce que j'ai compris, c'est beau de faire des barrages, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui vont travailler. Alors, les gens, ça les énerve. Alors, il y a peut-être aussi une histoire comme ça. Et ils n'ont pas pu passer, ils ont dit voilà, ils se sont énervés, et puis la voiture a fait les bombarder. C'est vrai, ils peuvent bloquer les autoroutes, mais pas tout bloquer.
Alors d'ailleurs, j'ai entendu dire que le ministère de l'Intérieur, aka M. Darmanin, a demandé à 12 000 gendarmes ou 16 000 gendarmes d'aller sur les autoroutes autour de Paris, non pas pour aller à la confrontation avec les agriculteurs, mais pour empêcher toutes les bagarres et les embrouilles qu'il pourrait y avoir entre eux. Des agriculteurs et des automobilistes et des gens qui vont travailler. Enfin, en tout cas, c'est le discours officiel. Serge.
Ouais, mais c'est parce que on peut pas arrêter un convoi de tracteurs. C'est pas le truc. Va arrêter un convoi de tracteurs, t'arriveras pas. Tu peux avoir les jeeps avec les trucs et tout ça. Si les tracteurs ils y vont, ils font un mur. T'en as deux, ils y feront rien du tout. Ils vont tout bloquer.
En même temps, entre un tracteur et un char, je ne sais pas lequel des deux est le plus...
Un char d'arceau, oui.
Parce qu'ils ont sorti des chars.
Charles de Gaulle avait imaginé un char d'arceau révolutionnaire, moderne, avec des trucs qui roulaient parfaitement, avec des trucs qui agrippaient le sable, la terre. Ici, dans les écrits militaires de Charles de Gaulle, parle des constructions qu'il avait faites par les ingénieurs, des images qu'il voyait. Un peu comme Léonard de Vinci.
Est-ce qu'il y a d'autres réactions?
Non.
On a fait le tour sur ce sujet. Ah, Christopher, tiens.
Juste une rectification, les personnes étaient de nationalité arménienne.
Ah.
Donc voilà. Pas libanaise.
Alors, selon vous, comment ça va se dérouler ces prochains jours? Je vous rappelle qu'on enregistre cette émission le lundi 29, c'est ça?
Oui, 29, c'est ça.
Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Est-ce que l'État va céder? Est-ce que les agriculteurs vont avoir gain de cause?
Si, l'État va céder, mais pas tout, pas les salaires, les cadences, tu ne peux rien faire, tu es obligé de bosser samedi, dimanche. Peut-être les salaires un petit peu, pour aider à apaiser un petit peu les agriculteurs. Mais après, ça ne sait pas de maintenant. Hein. Gigot d'agneau, moi, il y en a en arrière. Hein. C'est pas de maintenant. Hein.
Oussine.
À mon avis, l'État ne cédera pas.
Oussine.
Ben, à mon avis, moi, c'est que... Oh, laisse tomber, j'ai oublié.
Ah, si ça te revient.
Moi, j'ai quelque chose à dire.
Margot.
Moi, je pense qu'ils sont quand même obligés un petit peu de céder. Parce qu'au fait, aussi, les agriculteurs, ils demandent aussi les subventions qu'ils n'ont pas eues. Parce qu'il y en a qui n'ont pas eu les subventions qu'on leur avait promis.
Après, il y a plein de revendications. Hein,
donc, mais moi, je pense que l'État sera, parce que quand on voit qu'ils jettent des... On l'a vu à la télé, ils vont fort, hein, quand même.
Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il y aura une sortie de crise, vous pensez, là,
moi,
aujourd'hui,
je sens que
demain...
ça va finir mal, ça va finir par une guerre.
Christopher.
Alors, il y a déjà eu une sortie de crise partielle, puisqu'il y a une partie des agriculteurs, ils avaient trois revendications au départ. Gabriel Attal a fait des promesses sur les trois revendications d'origine. Et du coup, il y a une partie des agriculteurs qui se sont déjà retirés en disant bah, « Nous, on avait, c'était, nos trois revendications, c'était ça, ça et ça. On a eu des promesses par rapport à ça, on se retire. »
Ouais, mais est-ce qu'ils vont les faire ?
Aline et Florent, ouais.
Je vais faire un petit parallèle. Souvenez-vous, quand les conducteurs de bus voulaient faire grève, et qu'ils demandaient une augmentation. J'ai vécu ça. Quand j'allais au boulot et revenais, il n'y avait plus de bus. Et à partir du moment où ils ont une augmentation, ils sont remis à travailler.
Oui, parce qu'ils
l'ont à conduire. Donc voilà, je pense que c'est possible de majorer les salaires.
Aline ?
Oui, après, là, ils menacent de descendre. Là, on est lundi. Ils menacent mardi de descendre sur Paris et de faire un siège autour
de Paris. Dès aujourd'hui, là, ils sont partis.
Dès aujourd'hui, ils sont partis. Donc je pense que le gouvernement va devoir céder à un moment donné parce qu'on a besoin des agriculteurs parce qu'ils menaçaient aussi de bloquer Rungis. Et s'il y a un blocage de Rungis, il y a beaucoup de commerces, etc., qui ne seront plus livrés en fruits, en légumes, en viande, en poissons.
Oui, ils vont bloquer les transports.
Alors après, il y a aussi une question de calendrier qui est importante pour Gabriel Attal et pour son gouvernement. C'est que demain, il doit faire son discours de politique générale, mardi 30 janvier. Et dans ce discours, il compte quand même bien insister sur l'aspect sécuritaire, autoritaire et discipline de l'ordre, alors que ce soit dans l'éducation nationale, parce qu'il est très impliqué dans l'éducation nationale, mais aussi tout ce qui touche à l'intérieur du pays, donc Gérald Darmanin. S'il prononce son discours et que demain, c'est le bordel à Paris, que les gens ne peuvent plus rentrer dans Paris, qu'il commence à y avoir des pénuries d'aliments parce qu'ils ont bloqué Rungis et idem pour le reste... Voilà. Ils vont être très peu crédibles. Donc, je pense que leur intérêt, c'est de trouver une sortie de crise pour demain. Mais je ne sais pas s'ils y arriveront. Christopher.
Voilà. Bah après, soit ça va être le gouvernement cède, soit le gouvernement, au bout d'un moment, va envoyer la cavalerie et ils vont faire débloquer de force tous les trucs, hein, comme ils avaient fait pour les trucs de carburant et tout ça.
Ouais.
Où ils envoient un quart de CRS ou deux et le but, c'est de débloquer, quoi.
Allez, encore une ou deux réactions, peut-être. On a fait le tour, c'est bon ? Ok. Ok. Merci à tous d'avoir participé à cet échange. Olivier, tu veux rajouter un truc ? Non ? Bon, ok.
De rien.
On va passer à la musique, une musique choisie par Clarisse. Il s'agit de Kokomo. Tu peux nous en dire un mot, peut-être, si tu veux ?
Ouais, c'est un groupe que j'ai découvert en allant au concert de M. J'ai bien aimé ce groupe qui est d'influence rock. Et le titre que j'ai choisi, c'est Lille Feather.
Petite plume.
Ouais, je connais la... But do you really know your subject matter? And even if you draw me better and better, to your mind, we're gonna climb the climbs. I may be a moonshine for you, but I haven't shown you inside yet, and it doesn't worry me because you get all the same, the most beautiful of you.
Those days I see you,
But I want you playing with your heart anymore. Now I have to tell you about this internal roar. Tell you this, I want much good news.
Les Entonnoirs, émission 770, suite F1, avec Florent qui a un jeu à nous proposer.
Oui, deuxième. Toujours pas de jingle, malheureusement.
On va pas faire un jingle pour un jeu quasi unique. Ou alors, il faut me prévenir quelques jours avant.
Mais alors, j'ai expliqué succinctement ce dont il s'agit et ce que vous allez devoir trouver. Donc, c'est le jeu du Je suis célèbre. Hein, pour c'est la deuxième fois que je le fais. Et... En fait, j'ai choisi un prénom. Et il faut trouver à qui appartient ce prénom.
D'accord.
En fait, c'est des gens très connus, voire très connus.
Désolé, c'est moi.
Alors, j'ai choisi un prénom d'homme. Et quelqu'un qui est autour de la table. D'après vous, je parle de qui?
Thierry?
Non.
Christopher.
Benoît.
Olivier. C'est pour toi, Olivier. Voilà.
Ok, Olivier.
Les Olivier célèbres.
Les Olivier célèbres, ok.
Alors, je commence. Je suis un contemporain.
Ok, Olivier Besancenot.
Olivier de Benoît.
Non.
Besancenot.
C'est ça. Oh, elle est forte. Contemporain, français, écrivain, et mon nom a une particule.
Allez, particule. La suite.
Alors maintenant, deuxième Olivier.
Attends, est-ce que tu peux... Parce que le micro, il est toujours tête en l'air, là.
Ouais. Non, voilà, je suis vivant. Je suis né en Belgique.
Oui.
J'ai commencé ma carrière sur Antenne 2.
Olivier Mine.
Ouais, c'est Antenne 2. Antenne 2, ouais. Alors, le dernier, en tout cas pour ce qui est d'Olivier, je vais me faire avoir. Je suis un contemporain, étudiant en histoire.
Besancenot.
Ouais. Bon, c'était facile. On s'arrête là pour les...
Bah ouais, on va s'arrêter là. Merci Florent. T'en avais un autre peut-être,
c'est ça ? J'avais des Patrick aussi.
On va pas avoir le temps. Bon, tu les gardes pour la prochaine fois.
D'accord, merci.
Parce que Patrick Sébastien, Patrick...
Topalov peut-être. Hein.
On n'attend pas Patrick, ouais exactement. Ok, on va passer à la météo de Malika.
Jingle.
Seigneur météo,
bonjour auditeurs et auditrices, voici la météo de la métropole lilloise. Samedi 3 février, 9 degrés le matin et 11 degrés l'après-midi. Dimanche 4 février, 8 degrés le matin et 10 degrés l'après-midi. Temps couvert tout le week-end, douceur. Qui trop écoute la météo passe sa vie au bistrot. Proverbe breton.
Il me faut une fin à tout aussi.
Ah bah surtout en Bretagne, hein, parce que si t'écoutes la météo en Bretagne et t'apprends qu'il pleut, bah tu vas au bistrot, tu vas pas faire un tour. Hein.
C'est
flirte.
Alors après, il faut savoir qu'en Bretagne, enfin nous on dit tout le temps la Bretagne, il pleut tout le temps en Bretagne. Et en fait, en Bretagne, ils disent que dans le nord, il pleut tout le temps.
Ah ouais, c'est normal, c'est... voilà.
Bah, c'est grâce qu'on voit la belle.
C'est ça, de la région la plus pluvieuse. Merci à tous d'avoir participé à cette émission.
Merci.
Merci à vous, auditeurs, de l'avoir écouté. On se quitte avec un choix musical de Aline, et c'est...
C'est Dire Straits, avec Sultans of Swing.
À la prochaine. Je t'invite à danser, Aline.
Allez, bonne semaine à tous, ciao.
Bonne semaine.
À très vite.
Salut.
Au revoir.
Au revoir.
Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. When he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing, and Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. In their platform soul, they don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Say the last just as the time bell rings.
are the sultans. We are the sultans of Swing.
Vous savez, les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.
Parce que c'est des entonnoirs, parce qu'il donne plus fou dans la tête, et ça gratte des pots sur ma tête, et lui a plus fou, c'est ça, les entonnoirs.